Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Les finances du Vatican se portent plutôt bien malgré la crise, mais le Conseil des cardinaux veut des réformes pour réduire les coûts. Nous en parlerons dès le début de ce magazine. Aux États-Unis, les chrétiens réclament le respect de l'objection de conscience. Selon eux, la liberté religieuse est menacée par des choix politiques qui portent atteinte aux principes moraux et religieux et à leur mise en pratique. Nous parlerons également dans cette émission de la triste histoire de l'église de Jeté en France et d'un prémontré belge qui ne manie pas la langue de bois et qui risque sa vie en Syrie. Le Conseil des cardinaux chargé de l'étude des questions économiques et d'organisation du Saint-Siège s'est réuni mardi et mercredi au Vatican sous la présidence du cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone. Le pape François a tenu à les rencontrer mercredi pour un bref échange et pour inviter les membres du Conseil à poursuivre leurs rencontres régulières. Les bilans consolidés pour l'année 2012 du Saint-Siège d'une part et du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican de l'autre ont été rendus publics et ils sont positifs, Xavier Sartre.
Le bilan 2012 du Saint-Siège enregistre un bénéfice de plus de 2 millions d'euros grâce surtout au bon rendement de la gestion financière. Les dépenses les plus lourdes sont représentées par le coût du personnel, par les médias et par les nouveaux impôts adoptés en Italie sur les biens immobiliers. Le gouvernorat, qui dispose d'une administration indépendante, enregistre lui un bénéfice de plus de 23 millions malgré la crise. En revanche, le denier de Saint-Pierre, à savoir le montant des dons des fidèles, a baissé, tout comme les contributions des circonscriptions ecclésiastiques, des instituts de vie consacrés, sociétés de vie apostolique et fondations. Mais si la situation est globalement positive, malgré la crise qui a entraîné une baisse des dons, les cardinaux ont toutefois estimé que des réformes étaient nécessaires pour réduire les coûts. Elles passent par une simplification et une rationalisation des différentes organisations et par une programmation plus attentive de l'activité de toutes les administrations. À noter que le président du IOR, Ernst von Freiberg, a été invité à présenter aux membres du Conseil la situation actuelle de l'Institut pour les œuvres de religion. Son exposé, indique un communiqué officiel, a été suivi d'une vaste réflexion accompagnée d'éclaircissements opportuns. Autre intervenant remarqué, le père Federico Lombardi, en qualité de directeur général de Radio Vatican, en présence des deux membres d'une commission chargée de donner un avis technique sur l'émetteur du Saint-Siège.
Une matinée consacrée aux autorités civiles italiennes pour le pape François, qui a reçu successivement le chef du gouvernement italien Enrico Letta, le nouveau maire de Rome Ignazio Marino et son prédécesseur Gianni Alemano, tous trois en audience privée. Le premier ministre italien, qui était accompagné d'une délégation d'une dizaine de personnes, a également été reçu par le cardinal secrétaire d'État, accompagné du sous-secrétaire pour les rapports avec les États. Le compte-rendu d'Hélène Destombes.
L'entretien privé d'une trentaine de minutes s'est déroulé dans une ambiance cordiale et détendue. Les échanges ont porté sur la situation sociale et sur les épreuves traversées par les Italiens et par les ressortissants de l'Union européenne. L'accent a été mis sur l'adoption de mesures susceptibles de créer et sauvegarder l'emploi, surtout des jeunes. L'apport concret que les familles italiennes et les institutions de l'Église continuent de fournir à la stabilité du pays a par ailleurs été reconnu. À propos de l'actualité internationale, les deux parties se sont dites préoccupées par l'évolution du contexte civil et institutionnel des pays du pourtour de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Italie et Saint-Siège sont déterminés à poursuivre leur collaboration pour le développement de la nation italienne et le bien de la communauté internationale. Selon les journalistes qui assistaient à la rencontre, le chef du gouvernement italien a indiqué à la sortie avoir raconté au pape François son récent voyage en Terre Sainte. Il a qualifié sa rencontre avec le Saint-Père de particulièrement intense. Pendant leur entrevue, le pape François et le Premier ministre italien ont échangé des cadeaux. Le souverain pontife a reçu les Sermons de Saint Thomas, un ouvrage datant de 1571, et un chapelet en bois d'olivier rapporté de Terre Sainte. Le pape François, pour sa part, a offert à Monsieur Letta un stylo-plume en forme de colonne du baldaquin de Saint-Pierre.
J'ajoute que le nouveau maire de Rome est arrivé au Vatican à vélo depuis le Capitole, escorté par trois agents de police. Ces rencontres sont institutionnelles et sont largement liées à la présence du Saint-Siège sur le territoire italien, sans oublier que le pape est avant tout l'évêque de Rome. Je vous le disais en titre, un prêtre catholique belge âgé de 74 ans serait, si l'on en croit l'agence Vatican Fides, dans le collimateur des djihadistes en Syrie. Le père Daniel Maes est un professeur de théologie, membre de l'ordre des Prémontrés. Les djihadistes voudraient l'éliminer et envahir le monastère Saint-Jacques le Mutilé, situé à 90 km au nord de Damas et dont il est le recteur. Ce monastère, qui appartient au diocèse grec catholique de Homs et accueille des moines de 9 nationalités différentes, pourrait devenir pour les rebelles une base logistique militaire. Des familles de déplacés, chrétiens et musulmans, y ont trouvé refuge. Le père Daniel reçoit une aide humanitaire de la part de bénévoles et de Syriens qui résident en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Selon des responsables catholiques syriens et les familles des moines, toutes les communications avec le monastère ont été interrompues. L'année dernière, le père Maes s'était rendu en Belgique pour dénoncer le mensonge de l'Occident au sujet de la Syrie ainsi que la manipulation médiatique du conflit. Il avait accusé l'Arabie Saoudite et le Qatar, deux alliés des États-Unis, de porter une lourde part de responsabilité. Plus récemment, il avait affirmé que des chrétiens avaient été victimes d'un nettoyage ethnique. J'ajoute que le Conseil des évêques maronites a appelé les Libanais à ne pas s'ingérer dans le conflit syrien. Réunis dans la résidence patriarcale près de Beyrouth, ils ont insisté sur le danger que représente la prolifération des armes illégales dans le pays et ont demandé le ramassage des arsenaux illégaux. En France, les églises ouvrent leurs portes samedi prochain en signe de fête et de partage à l'occasion de la 3e édition de la Nuit des Églises proposée par Nartex, la revue culturelle en ligne du Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle. Des portes ouvertes sur la bonne nouvelle de l'Évangile, mais aussi sur l'art et l'histoire. Expositions, visites commentées ou thématiques, concerts, conférences, projections de films, lectures et propositions spirituelles animeront les églises de 19h à minuit et parfois toute la nuit. Certaines églises habituelles fermées seront ouvertes ce soir-là. L'objectif principal est de faire découvrir le message chrétien et de valoriser le patrimoine artistique et spirituel des églises à l'intention des croyants comme des non-croyants. Et toujours en France, l'église Saint-Pierre de Jété, petit village du Maine-et-Loire, est au cœur de tensions entre le maire et une partie de ses électeurs. Le bâtiment, construit au XVe siècle, est laissé à l'abandon depuis plusieurs années. En raison de sa vétusté et de sa dangerosité, le maire a décidé de lancer le mois dernier des travaux de déconstruction et reconstruction du lieu de culte. Et ce, malgré le rejet en 2012 par le tribunal de Nantes du permis de démolition. Les opposants à cette destruction se sont rassemblés en association pour faire barrage au projet. Malgré la destruction partielle de l'église, ils espèrent toujours sauver ce pan de patrimoine français. Maxime Bepser.
Tout a commencé en 2007 dans la bataille pour sauver l'église de Jété. La municipalité de l'époque annonce vouloir détruire une grande partie du lieu de culte et le remplacer par un nouveau bâtiment conforme aux normes de sécurité. Cette déclaration provoque une levée de boucliers chez les habitants. Une partie d'entre eux se regroupe au sein de l'association Mémoire Vivante du Patrimoine Gestois. L'élection d'un nouveau maire en 2008 n'y fait rien. Les deux parties se livrent bataille jusque sur le terrain judiciaire. Et en 2012, Jean Vosnica, secrétaire de l'association de défense du patrimoine, pense obtenir une première victoire.
La cour d'appel du tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de démolir. La commune est allée ensuite devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État n'a pas reçu leur dossier parce qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux. Donc, on reste sur l'idée de ce qu'avait dit la cour d'appel de Nantes, c'est-à-dire que le permis de démolir était annulé. Alors on en était resté là.
Pourtant, le 6 mai dernier, et à la grande surprise des opposants, le conseil municipal décide de lancer les travaux de déconstruction de l'église Saint-Pierre. Car pour le maire actuel, Jean-Pierre Léger, cette déconstruction ne nécessite pas de permis de démolir.
Alors il y a plusieurs raisons pour qu'il soit nécessaire. Il ne faut pas qu'il ait été institué au niveau communal. Il ne faut pas que le bâtiment soit protégé, ce qui est le cas. Il ne faut pas qu'il soit situé dans une zone de protection, ce qui est le cas. Et on peut déconstruire sans prendre de permis de démolir.
Aujourd'hui, après le passage des pelleteuses, il ne reste plus rien de la nef de l'église. À terme, seul le clocher et la crypte resteront à leur état d'origine. Mais cette démolition est celle de trop pour Jean Vosnica.
Ça fait partie du patrimoine local qui a été construit par nos ancêtres avec leur argent, avec leur sueur, leur sang parfois. Et donc c'est un bâtiment à conserver parce que si on détruit ce bâtiment, à Jété, il n'y aura plus de patrimoine. Tous les bâtiments historiques ont été détruits. Les touristes pourront éviter la commune, il n'y a rien à voir.
Pour le maire, il est hors de question maintenant de reculer, car l'intérêt pour sa commune tient aussi dans la réalisation d'économies d'argent.
La déconstruction et la reconstruction, c'est au prix 2009, réactualisé 2009, c'est 1 500 000. Au prix 2009, la restauration complète de l'édifice était de 3 700 000 euros. Voilà, donc c'est moitié moins cher que la rénovation de l'église.
Les opposants au projet de la mairie ont déposé un référé auprès du tribunal administratif de Nantes pour suspendre les travaux. La justice rendra sa décision lundi prochain et en cas de rejet de ce référé, la reconstruction de l'église devrait s'achever en septembre.
Et dans ce combat judiciaire, la mairie de Jété a trouvé un allié de poids. Le diocèse d'Angers a publié un communiqué le 18 juin dernier pour préciser que si l'église est déconstruite et reconstruite, elle resterait un lieu de culte. Quelques 6000 séminaristes et novices venus d'une soixantaine de pays ont convergé vers Rome pour participer en cette fin de semaine à des journées organisées dans le cadre de l'année de la foi. Leur pèlerinage intitulé « J'ai confiance en toi » s'achèvera dimanche, place Saint-Pierre, par une messe présidée par le pape François. L'objectif est de célébrer dans la joie la valeur des vocations pour l'Église et la nouvelle évangélisation. La rencontre a commencé jeudi par un pèlerinage à la tombe de Pierre. La matinée de vendredi sera consacrée aux catéchèses par groupe linguistique. Une fête ponctuée de témoignages est également prévu dans la soirée sur la place du Capitole. Une messe en la cathédrale nationale de l'Immaculée Conception à Washington pour conclure en ce 4 juillet, fête de l'indépendance, la campagne pour la liberté religieuse lancée le 21 juin par les évêques des États-Unis. 15 jours de prières, de catéchèses et de manifestations pour mobiliser la communauté catholique et attirer l'attention de l'opinion publique sur les menaces croissantes qui pèsent sur la liberté religieuse aujourd'hui aux États-Unis. Dans une lettre conjointe présentée en conférence de presse, une centaine de responsables chrétiens ont lancé un appel en faveur du respect de l'objection de conscience suite à un certain nombre de décisions politiques. Les évêques américains s'insurgent en particulier contre certaines dispositions de la réforme du système de santé voulue par l'administration Obama en matière d'avortement et de contraception et contre la nouvelle définition du mariage au niveau fédéral et national. La réforme de santé prévoit une prise en charge obligatoire des frais de santé par les employeurs, dont les contraceptifs. Or, l'Église catholique emploie des centaines de laïcs dans ses hôpitaux et écoles, sans oublier les propriétaires d'entreprises croyantes. Autre motif d'inquiétude pour l'Église catholique, la récente décision de la Haute Cour des États-Unis d'invalider la loi de défense du mariage qui le définit comme l'union entre un homme et une femme. Dans leur lettre, les responsables religieux demandent que la liberté de conscience soit prise en compte dans l'application des nouvelles règles adoptées par le ministère de la Santé et ils demandent au Congrès d'éviter que d'autres offenses inadmissibles à la liberté religieuse ne se répètent à l'avenir. Dans le cadre de nos rediffusions estivales, nous avons choisi aujourd'hui de vous faire réécouter un entretien réalisé en septembre 2012 lorsque les médias relayaient les nombreuses polémiques et réactions violentes dans le monde suite à la diffusion d'un film islamophobe. Nous avions alors demandé au philosophe Guy Coq, qui collabore à la revue Esprit, si on pouvait tout dire au nom de la liberté. Un gros plan signé Hélène des Tombes.
Par-delà le droit, parce que bien sûr on dit ils ont le droit, les journalistes, mais dans une société, il y a le droit, il y a aussi une morale commune. Et bien des choses qui ne sont pas interdites, on n'est pas censé forcément les faire, et les faire n'importe quand, n'importe comment. Certes, on peut rire de tout, en principe, mais il faut équilibrer ce principe avec un principe général de respect de l'autre. Donc ce que je reproche actuellement à certains, notamment dans la presse, c'est de faire du principe rire de tout quelque chose qui est sans limite.
Mais est-il possible dans une société de maintenir une véritable liberté d'expression tout en intégrant la notion de respect, de morale ?
Oui, parce que là, c'est justement la question éthique. C'est-à-dire qu'il appartient aux différents acteurs de cette société, bien sûr, de respecter la loi, mais en même temps de se demander ce que je vais faire là, quelles peuvent en être les conséquences si j'exprime cette chose. Est-ce que je vais blesser des gens Est-ce que c'est conforme à une sorte de coexistence pacifique des religions diverses et des philosophies diverses dans la société, etc. Mais c'est une régulation à la conscience des gens. On ne peut pas faire autrement. Et donc, il faut bien situer cette liberté d'expression aussi dans ses conséquences éthiques et dans ses conséquences politiques.
La liberté d'expression doit donc intégrer la notion d'enjeu de conséquence.
Oui, absolument. Et en l'occurrence, là, moi, je suis frappé du fait que il y a un contexte international très politique. L'enjeu n'est pas seulement une question de droit à de rire et de la dérision, c'est le sens politique international que prend ce geste.
Le respect d'autrui, les enjeux que peut avoir un acte, oui. Ne font-ils pas obstacle à la liberté de chacun ?
Pas pour moi, non. Non, absolument pas. Le respect, l'enjeu éthique fait partie de l'usage de la liberté. La liberté est elle-même à l'origine des options éthiques. Et ce respect des autres n'est pas contraire à ma liberté, c'est une option à laquelle je dois adhérer. D'ailleurs, le compliqué ici, c'est que le citoyen s'impose à lui-même, doit assumer lui-même cette obligation, puisqu'il y a des choses que la loi ne peut pas fixer. Donc il faut bien que toutes ces questions de respect d'autrui, elles soient régulées par le sens moral personnel des citoyens. Il n'y a pas d'autre solution.
L'un des principaux défis aujourd'hui n'est-il pas de préserver la cohésion sociale tout en respectant cette liberté d'expression, tout en répondant équitablement au particularisme ?
Tout à fait. Il faut établir ce principe de respect, étant entendu que, attention, il y a un droit de critique des religions, bien entendu. Et c'est à cet égard que moi je m'oppose à tous ceux qui disent après tout, il faudrait peut-être établir le blasphème. Parce que je dénie à l'État laïque et agnostique en lui-même la compétence pour décider de ce qui est blasphème ou pas du point de vue de telle ou telle religion. On ne peut pas décider comme ça que quelque chose est blasphématoire.
Doit-on, selon vous, distinguer liberté d'expression et provocation dans la mesure où la provocation est intrinsèquement liée à la liberté ?
C'est là le problème, justement, il n'y a pas de limite facile à positionner. Alors, d'une certaine manière, il y a quand même le droit qui nous vient à notre aide, puisque la diffamation des délits d'excès de liberté des uns qui victimisent les autres existe. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas de... La limite, la barrière ne peut pas être fixée d'avance, sauf à être éventuellement liberticide. Donc, il faut juger au cas par cas, et puis il faut développer une conscience éthique de tous les praticiens de l'information et aussi de la politique.
Pour conclure, peut-on considérer qu'autrui est à la fois, en quelque sorte, la limite de la liberté de chacun, mais dans le même temps, le garant de cette même liberté ?
Ah oui, la liberté d'autrui est le garant de ma propre liberté. Si je suis seul à vouloir la liberté de la presse, il n'y aura pas de liberté de presse, ça c'est clair. Maintenant, d'un autre côté, moi j'insiste sur le fait que autrui, à certains moments, ma liberté se borne par celle d'autrui, c'est évident, mais d'une manière générale, autrui n'est pas la limite à la liberté, parce que c'est en étant libre ensemble qu'on est beaucoup plus libre. Et donc j'ai besoin de la liberté d'autrui, de l'action avec autrui, pour que ma liberté déploie ses effets concrets. C'est une vue très individualiste de la liberté, qui est hélas une idéologie très répandue, cette croyance que la liberté c'est bien, c'est un absolu, hélas autrui est la société la limite. Et je trouve que c'est une vision déformée des droits de l'homme, restrictive, individualiste. La liberté c'est pas seulement son jardin privé fermé à autrui. Il est sûr qu'il faut passer en quelque sorte d'une sorte de tolérance, parce qu'il faut bien, on ne peut pas faire autrement d'autrui, à une sorte d'amour de la rencontre du différent.
L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. Je vous rappelle l'événement important de ce vendredi, la parution de la première encyclique de ce pontificat, Lumen Fidei, la lumière de la foi, écrite à quatre mains. Devant le secrétariat général du synode des évêques il y a quelques jours, le pape François avait annoncé qu'il co-signerait avec son prédécesseur une encyclique sur la foi. Il s'agit donc de l'encyclique sur la foi que Joseph Ratzinger avait prévu de publier à la suite de celle qu'il avait précédemment consacrée aux deux autres vertus théologales, la charité et l'esprit. Au moment où il a renoncé au pontificat, elle était presque terminée. C'est la fin de notre émission, mais vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous lire à tout moment sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va. Rejoignez-nous également sur Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter et sur nos applications. Et si vous avez des questions ou des idées, une adresse magfra@vatiradio.va. Merci de votre fidélité.